Instant.
Vas-y.
Là, je suis là. Oh! Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à cette émission en direct avec Philippe Magnan et moi-même. Philippe, aujourd'hui, est allé dans un événement. Il y avait une protestation à propos de la pièce slave. Donc, si je comprends bien, Philippe, éclaire-nous. C'est une pièce où des Blancs chantent des chansons qui ont été écrites par des esclaves noirs aux États-Unis durant le temps de l'esclavage.
Oui, effectivement, André, c'est une pièce qui est mise en scène par le fameux Robert Lepage et qui a travaillé avec Betty Bonifaci, donc qui est présentée au Théâtre du Nouveau Monde dans le cadre du Festival international de jazz.
Et donc,
on a des gens qui, aujourd'hui, ont manifesté et demandé de canceller, d'annuler le show en anglais.
Et ces gens-là, je vois sur leur pancarte, c'est écrit « Descendants des esclaves ». Est-ce qu'ils ont une façon de prouver qu'ils sont vraiment des descendants des esclaves?
Eh bien, ils se revendiquent de l'identité afro-descendante.
Oui, mais quand même, descendants d'esclaves, ça veut dire qu'il y a des gens dans ta lignée qui étaient des esclaves. Alors, il faudrait vérifier d'une part si c'est vrai, s'il y a des gens dans votre lignée qui étaient des esclaves aux États-Unis parce qu'il n'y en a pas eu ici au Canada. Alors, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le concept d'appropriation culturelle. Il y a des gens qui voient ça comme une insulte. Moi, je vois ça plutôt comme une apologie ou une façon de rendre hommage à une culture.
Oui, donc ici, on voit aussi un autre commentaire qui se lit « combien d'autres commentaires racistes de la part de Betty Bonifaci notre communauté doit-elle subir? » Donc, si tu veux, André, je peux mettre en scène les commentaires. Je peux, si vous voulez, résumer un peu la problématique.
Oui. Puis donc, moi ce que je vois, honnêtement, là-dedans, c'est un groupe de gens qui s'approprient l'esclavage des autres. Parce que l'esclavage, d'une part, au Canada, c'est pas un fait historique. Il n'y a pas eu d'esclavage ici qui était institutionnalisé comme ça l'a été aux États-Unis. Pour être descendant d'esclaves, tu dois démontrer que c'est pas juste parce que ta peau est noire puis que les esclaves, des esclaves étaient noirs, parce que je pense que tu as fait la recherche, Philippe. Il y aurait peut-être eu aux États-Unis plus d'esclaves blancs que d'esclaves noirs. Je sais pas si tu as trouvé les chiffres.
Non, je me suis pas penché sur ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en contexte, si on veut, la controverse. Mm-hmm. Puis on pourra discuter des différentes revendications des groupes, puis de certaines de leurs énoncés principaux.
Okay, il y a David Vincent qui dit qu'il y a eu 4000 esclaves recensés en Nouvelle-France. Mais David, est-ce que c'était des esclaves noirs ou plutôt c'était des esclaves amérindiens? Autochtones ou irlandais ou peu importe. En tant que des initiatives culturelles au Québec de cette envergure-là font leurs frais parce qu'ils sont lourdement subventionnés par les gouvernements. Alors, je pense pas qu'il y ait des profits. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Je penserais vraiment pas. L'argent qui est fait, c'est des subventions gouvernementales. Mais effectivement, que ce serait la moindre des choses. Qu'une soirée comme celle-là, que les profits soient donnés à des organismes de charité. Moi, où je bug un peu, c'est sur la pertinence, d'une part, de dire que ceux qui revendiquent sont des descendants d'esclaves, ça demeure à être prouvé. Mais moi, ce que je vois dans leurs revendications, c'est énormément de racisme, dans le sens où, parce que ce sont des Blancs, ils n'ont pas le droit, eux, de chanter ces chansons-là. Parce que ce sont des Blancs, ils n'ont pas le droit de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui étaient des esclaves, qui ont composé des chansons où on peut sentir la douleur. Moi, je pense que des Blancs ou des Asiatiques ou des Indiens d'Inde ou des Autochtones, n'importe quelle ethnie pourrait prendre ces chansons-là puis leur rendre hommage à ces gens-là qui ont souffert. On s'entend qu'ils auraient pu faire n'importe quel spectacle. Là, Robert Lepage a choisi Slave et il aurait pu faire d'autres choses. Là. Il aurait pu faire des chansons, il aurait pu faire la Bolduc. Là. Il a choisi de rendre hommage à ces gens-là. Alors moi, je trouve ça vraiment, vraiment plate qu'on soit présentement dans un monde où artistiquement, je peux pas toucher à... n'importe quelle chanson du répertoire noir durant l'époque de l'esclavage ou du répertoire indien ou du répertoire français ou peu importe, parce qu'il ne faudrait pas que je m'approprie cette culture-là.
Donc, suite à l'apparition de l'article de Marie-Lou Craft, eh bien, la principale concernée, à savoir Betty Bonifaci, a répondu. Donc ici, ce qu'elle dit, tel qu'elle a été citée dans un article de la Gazette, titré « Jazz Fest Slav isn't cultural appropriation », Singer Bonifaci says. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, citation, « People talk about whites taking black songs ». Donc les gens parlent de personnes blanches qui s'approprient des chansons noires. « Uniting two colors », poursuit-elle, « is modern ».
Oui, donc. Philippe, il y a quelqu'un qui dit que le son, il n'y a pas d'allure, là.
Qu'est-ce que tu veux dire, pas d'allure?
En tout cas, il y a un buzz de son qu'on dit. Est-ce que le son des caméras est fermé?
Oui, le son des caméras est fermé.
Oh, attends une minute.
Il y a peut-être un retour de son. Clique là-dessus.
Ouais, OK. Donc, ici, donc, pardonnez, je vais continuer. Donc, ils disent, « We don't talk about black and white in the show. » Ça, c'est toujours, donc, je remets en scène ici, Betty Bonifaci, celle qui, celle qui chante à l'intérieur du show. « We talk about human pain experienced together. All cultures and ethnicities suffer the same. » Donc, ce qu'elle dit, elle, c'est que le show ne parle pas de noir et de blanc. Il parle d'humanité. Il parle de douleur humaine ressenti autant par les Noirs et par les Blancs ensemble. Donc ici, c'était en réponse. Et on voit ici une réponse à cette réponse, si vous voulez, parce que là, il y a tout un débat qui s'est suivi cette controverse-là. Will Prosper, donc cofondateur de Montréal Nord République, écrit « C'est hallucinant de voir à quel point le racisme systémique ne prend pas de pause. » Et ici aussi, il fait référence ici à un article de Mme Petrovski. Donc, Mme Petrovski, elle a écrit un article dans le journal La Presse qui s'appelle, que l'on voit ici à ma gauche, « La cloche de verre doctrinaire ». Et elle répond aussi, si vous voulez, aux revendications des justiciers sociaux. Et puis, elle prend parti pour Betty Bonifaci et Robert Lepage. Et elle dit que les justiciers sociaux ici sont, si on veut, dans l'idéologie, et la doctrine. T'as-tu un commentaire à faire sur ça?
Écoute, ces commentaires-là, c'est toujours les mêmes arguments avec lesquels, mettons, Will Prosper arrive ou Émilie Nicolas, etc., etc. Moi, je vois qu'eux s'approprient la douleur des esclaves. Vous êtes des gens privilégiés. Vous demeurez au Québec, en Amérique du Nord, dans la richesse. Là où on a des filets sociaux, là où personne meurt de faim, là où tout le monde peut se loger, à moins d'être vraiment un sans-génie, là. Il y a des filets sociaux ici. Vous êtes des gens privilégiés. Vous demeurez probablement dans des beaux appartements, dans des belles maisons. Vous avez probablement un beau véhicule. En tout cas, je suis sûr que vous restez dans un appart ou une maison qui est pas mal plus belle que la mienne. Puis vous avez sûrement une voiture qui est pas mal plus haute que la mienne. Si vous n'avez une, peut-être que vous prenez le transport en commun parce que vous êtes à Montréal. Mais vous êtes privilégié et vous appropriez la douleur de ces esclaves-là parce que votre peau est noire. Vraiment? Quand vous dites on est des descendants des esclaves, prouve-les. OK? Prouve-les que tu es descendant d'esclaves. Parce que dans le pic de l'esclavage, je pense, et corrige-moi, Philippe, si je me trompe, dans le sud des États-Unis, je pense qu'il y avait 6 % de la population qui avait des esclaves dans le pic. Et il y avait, encore une fois, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'esclaves blancs également. Alors, je veux pas minimiser l'esclavage aux États-Unis, mais on est au Canada et moi, ce que je vois, c'est des gens qui brassent une espèce de nid de guêpe basé sur le racisme, alors que moi, je vois que Robert Lepage a probablement voulu rendre hommage à ces esclaves-là et de faire ressentir aux gens leur douleur. et de dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'ils ont la peau blanche, moi, je trouve que ça, c'est du racisme.
Donc ici, Will Prosper faisait référence aussi, dans le billet qu'on a vu tantôt, à la, si on veut, à la fin de la chronique dans Le Devoir de Fabrice Ville, que l'on voit ici à la gauche de l'écran. Il dit maintenant que c'était un chroniqueur du journal Le Devoir qui donnait une voix aux revendications, si vous voulez, des justiciers sociaux. Et puis que maintenant, c'est dommage qu'il quitte, si vous voulez, cette chronique-là. Donc, il situe ça à l'intérieur d'un contexte non moins que eux se situent comme esclavage, mais dans le contexte où ils allèguent que du racisme systémique au Québec. Encore une fois, lorsque j'étais là tantôt, en face du Théâtre du Nouveau Monde, ils réitèrent leur demande de la mise en place d'une commission sur le racisme systémique. Je vais juste continuer avec la petite citation de M. Prosper. Le pire dans cette histoire, c'est que maintenant que Le Devoir n'a plus le seul chroniqueur noir, Fabrice Ville, dans les médias écrits de masse du Québec, la question va continuer de se débattre entre blancs. Donc, ce qu'il dit, c'est que la question de l'appropriation culturelle, ça, sur la place publique, ça va se débattre entre blancs et non pas, et sans intervention d'acteurs de la communauté noire. Il finit ainsi, tout comme ce fut d'ailleurs le cas pour les créateurs de ce spectacle slave, qui n'est finalement que le triste reflet de notre société culturellement hégémonique, dopée à s'intoxiquer d'amour que pour elle-même, tellement dopée qu'elle ne voit plus le gouffre qui nous sépare.
C'est très beau, hein? C'est de la belle poésie. C'est juste que, évidemment, moi ce que je vois, c'est Will Prosper et Will Prosper. Sa job, c'est de s'assurer que le groupe qu'il croit représenter soit toujours sous le joug imaginaire d'un racisme systémique, alors que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits au Québec. J'ai grandi au Québec, même si je suis semi-algérien. Beaucoup d'efforts ont été faits justement pour donner toutes les chances du monde à tous ceux qu'on appelle, qu'on considère des minorités visibles. Ça veut dire des minorités que je peux voir avec mes yeux, et non pas une minorité comme les homosexuels qu'on peut pas le voir. Alors, moi, je trouve ça dommage. Je pense que le message qu'on lance aux Noirs puis disons que la vaste majorité des Noirs qui vivent au Québec, c'est des Haïtiens, et la vaste majorité des Haïtiens vivent à Montréal. Moi, je trouve ça de valeur que la personne qui se prétend être votre représentant parle avec un langage qui vous donne absolument aucun espoir. Et au lieu de faire la promotion dans ses discours de l'éducation, vous avez tout droit à l'école, exactement au même titre que n'importe quel citoyen. Vous avez droit à l'école, vous avez l'école qui est gratuite ici, le cégep, ça coûte à peu près rien. Il y a des régimes enregistrés d'épargne études et je sais qu'il y a beaucoup de mamans haïtiennes qui adhèrent à ce programme-là, les régimes enregistrés d'épargne études, parce que pour elles, ces mamans-là haïtiennes, et j'en ai rencontré pas mal, OK, pas mal plus que vous pensez. Pour elles, l'éducation, c'est important. C'est par là qu'on se sort de la misère et non pas de s'auto... comment je pourrais dire, de dire constamment qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il y a un racisme systémique. Alors que lorsqu'on parle de cette pièce-là, moi, je vois pas ça comme de l'appropriation culturelle qui est complètement ridicule. Je sais que Philippe, toi, tu as assisté à une conférence sur l'appropriation culturelle qui était organisée par des Autochtones et ils amenaient des bons points. Comment peux-tu comparer les points des Autochtones que tu as rencontrés versus les points qu'apporte M. Prosper?
Oui, ça, c'est une bonne question. Je vais développer plus là-dessus. C'est très, très différent. Les revendications des groupes autochtones par rapport à l'appropriation culturelle sont très, très différentes de celles des personnes dites racisées par un système allégué de la suprématie blanche. Je vais revenir plus tard. Ici, c'est le point central des revendications des justiciers sociaux, c'est que les chansons écrites par des esclaves ne doivent pas générer du profit pour des hommes puis des femmes blanches. Donc, c'est vraiment ça le cœur du litige. Comme on le voit ici à l'écran, citation, « Slave songs were not written for white people to profit off of. » Donc, c'est vraiment ça ici, les revendications. C'est-à-dire que là, il s'agit, dans un contexte où ils se plaignent de racisme systémique, de marginalisation, d'oppression, de profilage par la police, etc., là, ils disent, en plus de ça, notre, vous vous appropriez notre culture, vous générez avec ça des profits.
C'est même pas leur culture, c'est ça le pire. Will Prosper est un Haïtien et ces chansons-là ont été composées par des descendants africains qui n'ont absolument rien à voir. Parfait. Donc, encore une fois, Will Prosper s'approprie de la culture qui n'est pas la sienne parce que la couleur de sa peau est la même que ces gens-là. Alors que génétiquement, ils n'ont rien à voir. Il y a une maudite différence entre un Haïtien et un Africain, tu peux le voir assez facilement.
Très bien. Donc,
à part ça, moi, c'est ça que je suis...
Un petit instant. Je vais juste ici finir ici avec les revendications.
Peux-tu mettre dans le centre?
Je vais juste finir avec les revendications des justices sociaux. Merci. On voit Émilie Nicolas qui dit que c'est juste pour situer le contexte, parce que le contexte est assez complexe quand même tel qu'élaboré par les justices sociaux. Ce qu'il dit, c'est que donc cette pièce-là a lieu dans le contexte du festival de jazz. Or, selon ici Émilie Nicolas, présidente de Québec Inclusif, qui co-milite avec M. Prosper régulièrement, bien, le festival de jazz en lui-même fait de l'appropriation culturelle.
Mais oui, parce que le jazz, on pourrait dire que ça a été inventé par des Noirs.
Non, ce qu'elle dit en fait, c'est que, je vais vous dire, citation, « Ici à Montréal, cette musique fait aussi battre le cœur de la communauté noire. Un festival d'envergure internationale, fondé par Doudou Boissel, fait de la ville un rendez-vous annuel pour les grands noms de la musique noire des Amériques. Ce festival aussi est volé à son créateur, qui reste dans l'ombre. Une copie est née, le Festival international de jazz de Montréal. » Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'un Noir a fondé quelque chose comme un festival de jazz de Montréal.
Okay.
Et puis que les Blancs ont copié l'idée, se sont approprié l'idée. De la même manière que là, par exemple, Betty Bonifaci, okay. Eh bien, elle s'approprie les chansons écrites par des Noirs.
Fait que donc, dans un monde capitaliste, t'as pas le droit de prendre une bonne idée et la rendre meilleure.
Ben,
parce que t'es des Blancs. C'est ça. Écoute, depuis le début de l'émission, Philippe, c'est du racisme anti-blanc. Carrément. Parce que t'es blanc, tu peux pas faire ça. Parce que t'es blanc, tu peux pas faire ça. Alors, reviens ça de bord, là. OK, reviens ça de bord, puis change le mot blanc pour le mot noir, puis le tête va exploser. Alors, si vous êtes contre le racisme, ben soyez-le pas vous-même. L'appropriation culturelle, là, je suis désolé, regarde, moi, je vois ça comme rendre hommage. Toi, tu vois ça comme de l'appropriation culturelle. Ça veut pas dire... Tu sais, je veux dire, j'ai peut-être raison. Puis toi, tu as peut-être raison. On a des opinions différentes. Mais moi, je trouve ça complètement ridicule qu'on... Comme par exemple, Robert Lepage a donné une vie à ce répertoire-là. Des gens qui sont morts dans la souffrance... dans évidemment, Émilie Nicolas a tout à fait raison. C'est un crime incroyable. Mais les États-Unis d'Amérique ont été les premiers à abolir l'esclavage et il y a beaucoup plus de monde qui sont morts durant la guerre de sécession qu'il y a eu d'esclaves aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup plus de Blancs qui sont morts à la défense des Noirs qui étaient victimes d'esclavage. Il y avait beaucoup de Blancs aussi. Mais il y a beaucoup plus de Blancs qui sont morts pour cesser cette affaire-là. Et l'esclavage noir existe toujours aujourd'hui. Il y a toujours, à ce jour, des esclaves noirs qui sont en Afrique et qui sont dans les pays musulmans. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de Noirs dans les pays musulmans? Parce qu'il y avait beaucoup de Noirs qui s'en allaient d'Afrique vers les pays musulmans. C'est que là-bas, ils les castraient. OK, c'est pour ça qu'il n'y en a pas...
Là, ici, on est peut-être un petit peu loin du contexte peut-être. Actuel.
Mais moi, ça me fait chier que Émilie Nicolas, qui n'a probablement pas d'ancêtres qui étaient des esclaves, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est les esclaves aux États-Unis qui étaient noirs venaient d'Afrique. Et elle n'a pas de lien de parenté avec ces gens-là, mais elle va s'approprier leur douleur alors qu'elle est privilégiée. OK?
OK. Mais
parce que la couleur de sa peau ressemble à celle des esclaves.
Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que le jazz, c'est une tradition noire. Tu comprends? Donc, là, dans le cadre du Festival de jazz de Montréal, qui aurait été, si vous voulez, approprié par... qui aurait été créé par un noir et puis réapproprié par la suite par des blancs pour en faire du profit. Ils disent donc, le jazz est une tradition noire. Dans un théâtre et un milieu qui peine à représenter la diversité, donc où les Noirs seraient sous-représentés par rapport à leur pourcentage dans la population. Dans un territoire où l'esclavage a existé pendant 2 siècles.
Pas ici!
Marie-Lou Craft te contredit, mon ami. Elle dit, elle, à tort ou à raison, je l'ignore, mais elle dit que l'esclavage a existé ici, au Québec, à Montréal, pendant 2 siècles, mais où on l'ignore, ou le nie encore largement, tout en s'auto-proclamant « nouvelle négritude » et en utilisant le terme à la légère.
Regarde, Philippe, il a commencé à avoir des Noirs au Québec en 1980, la première vague d'immigration haïtienne. Ça faisait longtemps qu'il y avait des Noirs aux États-Unis. Ici, il n'y en avait pas. Okay? Quand tu voyais un Noir dans la rue, en 1980, tu te revirais de bord, tu te demandais qu'est-ce qui se passait. Puis à Québec, parce que j'ai demeuré à Québec aussi un peu, encore même au début des années 90, tu voyais un Noir dans la rue et tu, ah, wow, c'était spectaculaire. Là. Alors, si vous vous appropriez, OK, puis ça, c'est moralement répréhensible. Si en plus, vous appropriez la douleur et la souffrance des esclaves provenant d'Afrique qui ont été importés aux États-Unis avec des chaînes, qui ont été fouettés, qui ont été pognés pour ramasser du coton, etc., et que vous vous appropriez ça, vous, aujourd'hui, alors que vous êtes privilégié. Nommez-moi un pays sur la planète où les Noirs sont mieux qu'ici. Un pays sur la planète. Un. Peut-être les États-Unis, mais ça se joue entre les États-Unis et le Canada. Où est-ce que vous êtes le mieux? Où est-ce que vous avez le plus d'opportunités? Où est-ce que le moins de racisme envers vous? C'est ici que ça se passe. Alors, moi, je suis prêt à me battre avec les gens qui combattent l'esclavage. Et je trouve que l'initiative de Robert Lepage, c'est une belle initiative justement pour rendre hommage à ces gens-là qui ont composé des chansons et à les partager avec le public québécois. « Hey, qu'est-ce que tu veux au Québec? On est une majorité de blancs encore, mais faites-vous-en pas, notre règne achève! » Parce que démographiquement parlant, on en a peut-être maximum 50 ans au Québec à ce que les Blancs soient la majorité. Et soyez patient un petit peu, OK? On est en train de disparaître partout sur la planète, OK? Faites-vous-en pas avec ça. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que vous militez au sein d'organismes qui se disent inclusifs et que dans votre discours, je ne vois que de l'exclusion? Pourquoi est-ce que vous allez pas voir Robert Lepage puis dire merci si ça vous tient tant à cœur la cause des esclaves noirs américains provenant d'Afrique et non pas d'Haïti?
Donc, je pense ici que Émilie Nicolas, dans son post Facebook, peut répondre à ta question. Ce qu'elle dit ici, c'est que les Noirs ne participent pas au spectacle dans le cadre d'un festival qui aurait été réapproprié, n'en bénéficient pas non plus, ni moralement, ni financièrement, et le pillage continue. Elle continue. L'effacement aussi continue, parce qu'ils sont sous-représentés. Et elle dit, en parlant des Noirs, tu vis dans une société qui parle de son ouverture, mais qui ne donne pas la parole au tien. Et dans les médias, ils parleront entre eux, entre Blancs, si tu veux, de combien ils sont de bonnes personnes, qui ne voient pas, par exemple, la couleur, qui ne sont pas racistes, puis qui ont des amis noirs. Pas de droit de parole pour les descendants de ces Slaves, de ces descendants d'esclaves. Donc, ils disent, c'est ça ici, ce qu'il dit, c'est que les Blancs s'approprient la parole des Noirs et ne donnent pas la parole aux principaux intéressés.
Qui sont décédés afro, il y a 200 ans.
L'afro-descendant. Et si, dernièrement, elle dit, on dira qu'ils sont agressifs, incapables de raison, aveuglés par des croyances hérétiques. On leur répondra comme à des enfants, qu'ils ne comprennent pas vraiment comment devrait être traitée l'expression de la douleur de leurs ancêtres. Donc, c'est un peu ça ce qu'ils disent, en fait, c'est que leur parole est effacée, puis leur histoire est pillée, réappropriée.
Mais leur histoire, justement, on vient d'y redonner vie. En passant, il y a Siegfried Matelet qui aime bien notre show, mais il dit « Aïe, 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 je vous offre un verre après le show si vous voulez. » Alors, Siegfried Matelet qui essaie de nous acheter avec de l'alcool. Alors, je l'ai invité à me faire ses commentaires dans le chat, puis on va les lire parce que moi, je serais intéressé à voir son point de vue. Je sais que, tu sais, depuis le départ, peut-être que mon cœur semble dur, mais moi, je suis contre le racisme, OK? Je suis contre le racisme. Puis je viens d'une génération qu'on l'a quasiment anéanti, le racisme. On s'est mis d'accord. OK, à partir de maintenant, on s'en calisse de la couleur de la peau. C'est-tu correct? Deal, OK? Alors, quand je vois du monde qui remet ça sur la table, aïe, 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 pour des raisons floues et non convaincantes, tu sais, je sais pas, là, mais s'il y a un Américain... OK, un noir américain, un afro-américain, qui est capable de me prouver là, que ça, dans sa lignée, il y a des gens qui ont été des esclaves, puis ça le blesse, etc. Je suis prêt à l'écouter. Mais pas des gens privilégiés qui vivent des vies très confortables. Non, ça, j'accepte pas ça, parce que ce que vous faites encore, c'est que vous mettez du gaz dans le feu du racisme, puis ça, si vous voulez éliminer le racisme, là, vous prenez vraiment pas de la bonne façon.
Mais tu penses pas que ton argument est comme ad hominem ici, plutôt que d'adresser leurs arguments, toi, tu recontextualises leurs conditions d'existence. Ce qu'ils disent ici, c'est pas qu'ils sont pas confortables à Montréal, ce qu'ils disent, c'est que la parole de leurs ancêtres est approprié.
Ouais, mais ils s'approprient, Philippe, une douleur qui n'est pas la leur.
Ouais, ben c'est qu'ils revendiquent que l'effacement de leur parole. Les autres, ils disent, nous sommes des descendants des esclaves.
Ouais.
Et puis ce sont ces esclaves qui ont créé les chansons, qui dans le cadre d'un festival qui lui-même, le festival de jazz, est issu d'une tradition noire, la musique jazz, qui aurait été mise en forme par un Montréalais noir, réapproprié par des Blancs.
Ça, c'est de la bullshit en passant. C'est juste que on est dans un monde capitaliste et la meilleure idée gagne. Alors, il s'est approprié, regarde, c'est comme le Festival des films du monde, là. Il y a quelqu'un qui a eu une meilleure idée et le fondateur, c'est un Français. Et là, il y a des Québécois qui ont fait un meilleur festival puis ça l'a fait mourir, le Festival des films du monde. On est dans un monde capitaliste. Alors, ce que vous voyez comme du racisme, moi, ce que je vois, c'est du capitalisme, puis je suis désolé, mais la meilleure idée gagne. Et puis là, moi, je l'ai pas vu, ce spectacle-là, mais j'imagine que les chansons qui ont été écrites par ces esclaves-là, je suis persuadé que c'est poignant, OK? Je suis persuadé que ça transpire la douleur. Je suis persuadé que les gens sont très, très émus. Et il y a des gens qui ont payé des gros prix pour aller voir ces chansons-là. À ce moment-là, pourquoi que la gang à Will Prosper n'organise pas ce show-là? Pourquoi qu'il chiale contre la personne qui l'organise puis qui fait revivre ces chansons-là, qui fait revivre, qui rend hommage et honore la mémoire des gens qui ont composé ces chansons-là? À la place de ça, pourquoi tu l'as pas fait, ce show-là? Viens pas me faire à croire que c'est parce que t'as pas assez de subventions, hostie!
Oui, ben ils disent que les autres, ils ont pas assez de subventions.
Hey, come on, Chris!
Et ils disent aussi que dans la mise en forme de ces spectacles-là.
OK, fait que finalement, tu chiales contre l'équipe de volleyball parce que t'as pas été choisi. Oh, j'ai pas été choisi. Oh, shit, OK, ben donc, je suis victime de whatever. Regarde, là.
Ils allaient qu'ils sont victimes de racisme systémique.
Ben oui, mais c'est sûr, ça, c'est sa job de faire ça. Leurs organismes ont des subventions pour en trouver. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas vu d'argument très, très convaincant. J'aimerais quand même qu'on revienne, Philippe. Moi, je suis bien d'accord, l'appropriation culturelle. Fais-moi la différence, s'il te plaît, une petite synthèse entre ce que tu as vu. Non, OK, tu veux pas. Bon, ben, correct.
C'est qu'en ce moment, je suis un peu fatigué, puis je pense pas que je serai en mesure de rendre justice aux arguments des autochtones pour pouvoir que je fasse un peu de travail.
OK, mais quand même, ça veut pas dire que je rejette pas du revers de la main le concept d'appropriation culturelle, lorsque c'est légitime. Donc, les Autochtones que tu as rencontrés avaient des bonnes raisons de dire c'est de l'appropriation culturelle et ça nous nuit. Ouais. J'aimerais ça entendre ces arguments-là. C'est quoi les arguments que ça vous nuit, vous autres?
En gros, c'est l'idée de base, c'est qu'il y a des peuples autochtones qui sont en voie de mourir. Donc, et la mort d'un peuple, c'est quelque chose de très, très tragique. Et puis, dans ces circonstances-là, il y a des, comme par exemple, si je me rappelle bien, mais là encore une fois que je te dis que je revérifie, c'est la controverse qui a eu lieu autour, par exemple, de l'émission Parwow, où il y a des gens qui ont demandé, s'il vous plaît, ne pas utiliser ce terme-là. Parce que, par exemple, le Parwow, ce serait un rite ou un rite de passage ou une cérémonie qui est très, très critique dans dans certaines cultures des Premières Nations. Et puis, ils voyaient ça comme une attaque à leur culture, puis comme si ça leur donnait de la difficulté à respirer, puis à vivre de manière authentique leur propre culture.
En passant, dans le chat, là, il y a des gens qui ont des commentaires que je désapprouve. Il y a des commentaires que je juge haineux et racistes dans le chat, dans le sens, si vous dites « eux autres » en parlant des communautés, vous faites exactement ce que Will Prosper fait et Émilie Nicolas fait, les Blancs, il y a du racisme systémique, etc., etc. Faites pas ça, s'il vous plaît. les Noirs au Québec, c'est nos frères, c'est nos sœurs, OK? Puis on ouvre nos bras, OK? Puis on l'a fait, ma génération, on l'a fait. C'est nos frères et nos sœurs, comme les Maghrébins, comme les Asiatiques, comme toutes les communautés. Puis j'aime pas utiliser le mot communauté parce que si on veut avoir un monde vraiment inclusif, il va falloir arrêter de parler de communauté. Donc, c'est nos frères et nos sœurs, les Haïtiens ici, et faut leur démontrer du respect. Même si je suis profondément en désaccord avec Will Prosper puis Émilie Nicolas, je pense pas que dans mes propos, j'avais rien de haineux ou de raciste. Je suis en profond désaccord avec leur doctrine. Puis, je soupçonne qu'ils ont des subventions ou ils se font financer parce que il faut qu'ils trouvent un racisme systémique à quelque part. S'ils en trouvent pas, ben ils ont pas de raison d'être. C'est leur produit, c'est ce qu'ils pédalent. Mais moi personnellement, les communautés, j'ai dit de pas dire ce mot-là, là, mais les Haïtiens que j'ai rencontrés, je les adore. Puis je veux pas voir de commentaires qui pourraient dénigrer ces gens-là.
Très bien. Juste concernant leur revendication, en gros, par rapport au racisme systémique, c'est que il y a, selon eux, un problème de représentation, par exemple, des Noirs dans les médias ou dans les conseils d'entreprise ou, par exemple, dans la police ou chez Hydro-Québec, dans les sociétés d'État, etc. Et puis, une surreprésentation des Noirs parmi les pauvres, parmi, par exemple, les prisonniers. Puis, ce qu'ils vont alléguer ici, c'est que ça, c'est le fruit, si on veut, de biais à l'intérieur du système.
C'est pas vrai.
Mais ça, c'est ce qu'ils vont...
Oui, mais c'est faux, puis c'est facile à démontrer. C'est que d'une part, c'est normal qu'il y ait que la majorité soit représentée dans les jobs parce que, par exemple, si on est 100 000 Québécois puis on déménage au Japon, ben dans 20 ans, dans tous les organismes gouvernementaux du Japon, il n'y aura pas une représentation proportionnelle, OK? C'est complètement normal, là, cette affaire-là. Et s'il y a une surreprésentation des Noirs en prison, c'est parce qu'ils commettent plus de crimes. That's it. Arrêtez, là. À un moment donné, il y a des différences culturelles entre les différents groupes. Puis c'est facile à voir. Tu sais, comme par exemple, les Asiatiques sont surreprésentés dans des métiers comme dentiste, médecin. Pourquoi? C'est-tu parce qu'il y a un racisme inversé qui les favorise? C'est-tu parce qu'on vit dans un monde de suprématie asiatique? Non. Quand tu vas dans les hôpitaux, par exemple, le Jewish Hospital puis tout, ben parmi les Juifs, il y a plus de Juifs qui font plus d'études et qui choisissent des métiers, justement, comme avocat, médecin, etc. C'est-tu parce qu'ils sont surreprésentés qu'ils bénéficient d'une suprématie juive? Non, pas nécessairement. C'est juste des communautés pour qui l'éducation est plus prioritaire que d'autres. Regardez là, moi j'ai travaillé pour Universitas, là, puis je peux vous le dire, là, dans la communauté anglophone, OK, je parle des Blancs anglophones, la priorité de l'éducation, elle est très supérieure aux Blancs francophones. Parmi la communauté maghrébine, la place de l'éducation, elle est beaucoup plus importante que les Blancs francophones. Et je vous dirais que j'ai rencontré beaucoup de mamans haïtiennes monoparentales et qui, pour elles, l'éducation, c'était plus important, bien plus que la majorité des Blancs francophones. Alors, c'est une tendance qui va revirer de bord assez rapidement. Tout passe par l'éducation. Si vos enfants sont éduqués, ils vont avoir des bons jobs, puis ils vont faire de l'argent, puis vous allez voir que la couleur de la peau, là, ça joue pas un grand rôle dans les carrières.
Très bien. Donc, pour clore ici autour de l'événement qui a eu lieu aujourd'hui, la manifestation qui a eu lieu donc en face du Théâtre du Nouveau Monde tantôt, eh bien, vers la fin, après avoir énoncé leur revendication micro à la main, eh bien, ils ont tenté de faire canceller le spectacle. Et là, ici, on voit avec la photo, les policiers sont intervenus, ont dégagé l'entrée afin de s'assurer que le spectacle est bel et bien.
Moi, tu vois, je supporte leur liberté d'expression, même si je suis en désaccord avec leur doctrine. Sauf que j'ai bien de la misère avec du monde qui veulent bannir des choses. Dans le sens que je suis pour ta liberté d'expression, mais je suis pour la liberté d'expression de Robert Lepage aussi. Et tu vois, les gens qui ont vu ce spectacle-là, je suis persuadé qu'ils ont été émus et sensibilisés à cette cause-là et qu'ils ne l'auraient probablement pas été sans ce spectacle-là. Alors, les gens en photo, là, mes frères et sœurs haïtiens, haïtiennes ou africains, africaines, si vous voulez vraiment éliminer le racisme, tabarouette, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos espèces de revendications de racisme systémique. Garde, montre-moi le racisme, puis je vais le combattre avec toi. Mais de dire racisme systémique, appropriation culturelle, de crier ça, là, ça règle à rien. On peut-tu revenir à notre stratégie des années 80 que la couleur de la peau, on s'en colissait? On peut-tu revenir là, puis voir qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça allait bien pendant un bout. Ça allait bien pendant que les Maghrébins, on les appelait pas des musulmans, on les appelait des Algériens, des Marocains ou des Français parce qu'il y a un accent français. Là, à un moment donné, il y a un smart qui est sorti. Non, c'est des musulmans! Puis là, la marde à pogner. Regardez là, c'est pas compliqué. Ceux qui font le plus d'argent au Canada, là, c'est des Asiatiques, OK? C'est eux qui ont les meilleurs jobs, puis c'est eux qui font le plus de salaire. Et aux États-Unis, il y a plus d'écart entre de salaire entre les Asiatiques puis les Blancs qu'entre les Blancs puis les Noirs, OK? L'éducation. Alors, il y a les groupes au Québec, si vous voulez vraiment les séparer par groupe, là, moi je déteste faire ça, mais faisons-le, là. Mais regarde, tu vois, parmi les derniers de classe, au niveau de l'éducation, il y a les Québécois francophones. OK? Avec les Haïtiens, on n'est pas bon. On n'est pas bon pas en toutes, nos communautés. Les Maghrébins, ils nous torchent. Ils commencent à nous torcher, OK? Au niveau des études cégep, université. Ils commencent à nous torcher. Ils vont nous torcher financièrement dans 15 ans, 20 ans, maximum, peut-être avant, OK? Les Asiatiques nous torchent, les Juifs nous torchent. Pourquoi? Parce que pour eux autres, l'éducation, c'est important. Essayez ça pour le fun, OK? Puis je parle autant aux Québécois francophones qu'aux Haïtiens. Essayez ça, juste pour le fun, OK? Finis ton secondaire, va au cégep, puis essaye de te pogner une bourse, va à l'université, garde, travaille, on l'a toute faite, là. Essaye ça pour le fun, voir ce que ça va donner dans 20 ans. Les Haïtiens et les Vietnamiens sont arrivés au Québec à peu près en même temps. La vague de Vietnamiens est arrivée en 75 et la première vague d'Haïtiens en 80, OK? En 1990, je crois qu'il y avait 6 % des Vietnamiens qui possédaient un bac ou plus et maintenant, c'est 30 % Et au niveau des Haïtiens, je pense que c'est 15 % qui ont un bac ou plus, OK? C'est deux ethnies qui sont arrivées à peu près en même temps au Québec, puis il y en a un qui performe plus que l'autre. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est plus prioritaire. C'est plus prioritaire que pour les Blancs francophones, je vous le dis, moi. Il y a combien de familles présentement, des Blancs francophones qui m'écoutent, qui ont souscrit à un régime enregistré d'épargne études? Pas beaucoup. Puis regardez les anglophones, c'est la majorité. OK? Je vous le dis, là. Fait que les différentes communautés ont différentes priorités. Puis si tu priorises l'éducation, inquiète-toi pas, tu subiras pas ben longtemps de l'appropriation culturelle ou du racisme systémique. T'essaieras ça pour le fun!
Mais André, dernier commentaire, William Prosper pourrait te répondre qu'ici que tu te drapes dans tes privilèges blancs puis que tu donnes une coupelle de taloche aux revendications des justices sociaux.
Je ne suis pas blanc d'une part. Et c'est très raciste de dire ça, que je suis blanc, je suis pas blanc. Et aussi, j'ai donné des taloches aux Québécois francophones autant qu'aux Haïtiens dans les 5 dernières minutes. Arrêtez de dire que je suis blanc, je suis pas blanc. C'est raciste de dire ça. C'est comme de dire un noir qui a l'air d'un chinois. C'est très insultant. Je suis semi-algérien. OK? Je suis semi-algérien. Semi-algérien.
Je pense qu'on a fait le tour.
Quoi, tu m'as muté?
Non, je m'étais muté. Okay. J'ai posté des questions à lire, mais moi...
Je vais peut-être aller dans le chat. En passant le chat, là, sérieusement, là, faites-moi pas honte, Asti. Come on. Bon, c'est toujours les mêmes slogans, là.
Je peux aller regarder ça ici. Je l'affiche à l'écran en ce moment. Là.
Écoute, tu sais, je veux dire...
Tout dit à un musulman blanc qu'il est blanc. Ah, ah, ah. OK, ça c'est... Métis, lol. Tout dit à un musulman... OK. T'es beige. Quelqu'un qui dit que t'es beige, t'es
beige. Regarde, là, tu peux même dire qu'est-ce que tu veux, je suis à moitié algérien. Tu peux dire que je suis beige, tu peux dire que je suis taupe.
J'ai pas beaucoup de commentaires, hein. Non, les immigrants ont de la misère avec les prêts vu aucun signataire, etc. Bon, j'ai de la misère à comprendre les commentaires.
Regarde, là. OK, les banques, là, ils vont prêter. Regarde, moi, là, je suis pas capable d'avoir un prêt à la banque, là. Puis, je dis pas que c'est à cause de ma moitié algérienne, là. C'est à cause que j'ai un crédit de marde, là. Arrêtez, là. Arrêtez, là. À un moment donné, faut arrêter de blâmer les autres pour nos mauvaises décisions. Tu sais, c'est comme je prends un blanc. Okay, moi, je suis pas blanc, mais je prends un blanc comme Philippe Magnan. Philippe Magnan, là, il a pas cette carte-là dans son jeu de cartes de dire « si je vis des malheurs, c'est à cause de la couleur de ma peau ». Il y a des grosses chances que si ça va pas bien dans votre vie, là, il y a des grosses chances que ça ait rien à voir avec la couleur de votre peau. Des grosses chances que ce soit autre chose. OK? Donc, c'est facile de dire « Ah, il y a plus de Noirs dans les prisons, donc c'est à cause qu'ils sont victimes de racisme. » C'est bizarre. Il n'y a à peu près pas d'Asiatiques en prison. C'est bizarre. Les autres ne sont pas victimes de racisme. Moi, je suis sorti avec une Vietnamienne, puis elle a été victime de racisme, puis elle s'est fait écœurer. Pas par des Blancs, par des Haïtiens. Elle restait à la Côte des Neiges. Puis elle s'est fait intimider, taxer, etc., etc. OK? Elle est devenue une avocate. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est important.
Mais comme on le voit par exemple à l'écran, il y en a qui disent que il y a comme une espèce de guerre, la guerre à la drogue, le war on drugs, c'est une guerre contre les Noirs. Puis là, peut-être qu'avec la légalisation du
cannabis. Ça encore là, c'est tellement, tellement épais de dire ça, j'en reviens pas. C'est une guerre aux Noirs. Ben voyons donc, Chris, ils vont arrêter les bikers aussi quand ils vendent de la drogue. Là, je veux dire, ça n'a pas de rapport. Là, il y a Siegfried ici qui m'a envoyé un long message que je vais lire. Oh là 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 là. Je me demandais comment ça se fait qu'il n'envoyait pas son message parce qu'il m'écrit un petit roman. Alors, est-ce que tu me permets que je le lis? Je ne l'ai pas lu encore, je le lis en direct. Siegfried Matelet, en passant, c'est une personne qu'on respecte énormément. Okay? Il est professeur de sociaux.
Chercheur.
Alors, je te salue, Siegfried, et merci d'avoir pris le temps d'écrire ce que tu as écrit. Alors, je lis. Pour résumer ma pensée, je dirais simplement que tu as énoncé quelques généralités sur le travail et l'esclavage en Amérique. Il semble aussi que tu as oublié le lien entre la présence de descendants d'Africains en Haïti, dans les Antilles, et la traite d'esclaves. Je vais te donner ce point-là. En ce sens, il y a une communauté d'histoire. Il y a aussi une similitude de conditions sociales au-delà des disparités économiques, comme le fait de savoir si Émilie Nicolas a une voiture ou prend le métro. Je parle des discriminations qui demeurent un peu partout face à l'emploi et au logement, entre autres. Je pense que sur cette base, les Montréalais noirs peuvent légitimement prendre la parole sur cet enjeu. Je suis d'accord avec toi aussi. Est-ce que tu es jusqu'à maintenant, Philippe, tu t'opposes pas ce que Siegfried a écrit? OK, excellent. Je suis d'accord avec toi aussi, Siegfried, là-dessus. Mais dans l'ensemble, on dirait que tu pars de généralité pour dire aux Noirs comment s'organiser. Pour résumer ma pensée, je dirais simplement que tu as énoncé quelques généralités sur le travail et l'esclavage en Amérique. Il semble aussi que tu as oublié le lien entre la présence de descendants d'Africains en Haïti. Attends, as-tu écrit deux fois la même affaire, là? OK, il a écrit deux fois la même affaire. OK, d'accord, je pense qu'il a écrit trois fois la même affaire. OK, ça cause, c'est comme s'il avait pasté quatre fois la même affaire. OK, donc, grosso modo, en tout cas, je pense pas que je dis aux Noirs comment s'organiser. C'est pas ça que je veux dire. J'espère que... En tout cas, si jamais ça a été perçu comme ça, c'était pas ce que je voulais dire. Oui, OK, il y avait des descendants d'Africains à Haïti et dans les Antilles. Je comprends ça, mais sérieusement, là, quand tu regardes un Africain puis tu regardes un Haïtien, tabarouette, il y a une différence, là, tu le vois. Là. À moins que Siegfried soit tellement raciste que tu dises que tous les Noirs se ressemblent, ça serait raciste. Mais quand même. Moi, ce que, dans le fond, là, Siegfried, là, ce que je dis, là, c'est pourquoi Chris qu'on n'ouvre pas nos bras puis qu'on travaille pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'il faut créer des équipes qui se battent les unes contre les autres? Les Blancs, sa planète, je pense qu'on représente 7% de la population. Les Québécois, on est une minorité en Amérique du Nord, des francophones. On est une minorité. Puis, on a été oppressés, opprimés également par le Canada anglais. Si tu connais notre histoire, on s'est fait opprimer là-dessus. Fait que de venir dire à des Québécois qu'on oppresse puis qu'on bénéficie d'un patriarcat ou d'une suprématie blanche. Attends un peu, là. Attends un peu, là. T'sais, au Québec, vraiment, les Haïtiens, c'est un honneur qu'ils aient choisi Montréal comme destination. Merci d'avoir choisi Montréal. Parce qu'on a beaucoup plus en commun, les Québécois, avec les Haïtiens qu'avec les Irlandais ou les Anglais.
Concernant la problématique de l'esclavage au Québec, il y a le rappeur Webster qui, lui, fait la tournée des cégeps. Il faisait ça en 2017, d'après un article du cégep de l'Apocatière. Et là, il dit qu'il y a eu jusqu'à 1000 esclaves répertoriés au Québec.
Ouh! Ouh! Wow, wow, wow! Mais est-ce qu'il dit que c'est des esclaves noirs? Parce que je sais qu'il y a eu des esclaves autochtones. Il y a des autochtones qui ont pris des Blancs comme esclaves.
Oui, ça c'est une bonne question, ça ici. Puis en effet, concernant l'esclavage des autochtones, il y a un article qui est paru dans Le Devoir de Caroline Monpetit titré « La délicate question de l'esclavage au Québec ». Où elle dit ici, depuis les travaux de l'historien Marcel Trudel, qu'il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France, puis sous le régime britannique. On sait que moins des deux tiers de ces esclaves étaient en fait des panisses, des Amérindiens. Donc, en effet, moins des deux tiers de ces esclaves auraient été des Amérindiens. Les Amérindiens eux-mêmes possédaient des esclaves avant l'arrivée des Blancs. Ceux-ci n'étaient pas achetés puis revendus, mais plutôt donnés ou obtenus en tant que prisonniers ou butins de guerre. Mais l'esclavage, qu'ils mettent en cause des Amérindiens et des Noirs, a longtemps fait au Québec l'objet d'un vide juridique. En l'absence d'une loi claire, le sanctionnant ou le condamnant, etc. etc.
En passant à Siegfried, là, l'accès au logement, là, moi, là, sérieusement, si je veux un logement puis il n'y a personne qui signe le bail avec moi, je vais le faire refuser le logement, OK? Je sais pas si c'est à cause que j'ai de l'air la moitié d'un Algérien, là, mais ceux qui se font refuser des logements, c'est ceux qui sont pas solvables. Oui, je suis pas solvable. Je te dis tout de suite, je suis pas solvable. Je suis pauvre. Puis ça fait longtemps que je suis pauvre. OK? Puis une des raisons pourquoi je suis pauvre, c'est parce que je suis un imbécile. OK? À place de prendre l'argent puis de la dépenser pour moi, je dépense pour cet hostie studio-là. OK, c'est ça que je fais. Moi, quand j'ai de l'argent, là, je dépense ses autres. Je dépense mes enfants. Je dépense sur ma blonde. Est-ce que j'étais pauvre à cause d'eux autres? Aïe, aïe, aïe. Mais encore là, je me blâme moins. Tu sais, c'est moins. Bon. Mais je suis pas plus capable de me pogner un logement. Moi, demain matin, là, je m'en vais signer pour un logement. C'est bye-bye, là. Moi, je peux pas avoir une carte de crédit, là. Ils vont me refuser, là. Pourquoi? Parce que j'ai eu 10 ans ben, ben rough financièrement. Qui fait que je suis pas solvable, est-ce que... Puis... Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que j'ai de l'air blanc, là, c'est insultant, mais regarde, je vais l'apprendre. Là. Mais je me pose pas la question c'est à cause que je suis à moitié algérien. Parce que je suis pas solvable, si j'ai pas pris des bonnes décisions financières. Ce qui a fait en sorte que quand ils font mon analyse de crédit, ils disent c'est de la calisse de marde. C'est ce que je pense. On finit ça là? Alors, le message de fin que je dis, mais merci beaucoup Philippe pour cette initiative. Merci d'avoir été à cette manif-là puis d'avoir ramené leurs arguments. Et ce que je dis, mesdames et messieurs, c'est que si on veut combattre le racisme, là, ouvrons nos bras, ouvrons notre cœur. Mes frères et mes sœurs haïtiens, je vous aime, je vous adore. Mes frères et mes sœurs maghrébins, je vous aime et je vous adore. Mes frères et mes sœurs anglophones, francophones, asiatiques, je vous adore.